public dont jamais
le cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Sporama, votre émission qui parle de sport tous les lundis sur VOA Afrique. Le top pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football de 2023 est lancé. 48 équipes engagées, 24 obtiendront leur billet pour la phase finale en Côte d'Ivoire. Et pour en parler, on retrouve comme d'habitude nos consultants en direct de Libreville au Gabon, le doyen Jules Valentin Ngoué. Bonsoir Jules.
Bonsoir Élisée. Bonsoir à tous.
À Kinshasa, en RDC, nous avons Valdo Simon Yamba. Bonsoir Valdo.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Amine Birouk est lui à Casablanca au Maroc. Amine, bonsoir.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Amédine Si nous rejoint depuis Columbus dans l'Ohio. Amédine, bonsoir.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Et puis, fidèle au poste, Lawal Dinkosuwa avec moi dans ce studio. Bonsoir Lawal.
Élisée, bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous chaque lundi soir.
Ce programme, c'est parti. Les éliminatoires pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football battent le plein. Et déjà, la deuxième journée a démarré hier, même s'il reste encore des matchs à jouer pour la première journée dans le groupe E. Le Ghana prend 4 points en 2 matchs après avoir ramené le nul 1-1 de son déplacement en Centrafrique. Valdo, la qualification pour le mondial a transformé les Black Stars.
Exactement, Élisée, c'est aussi ça la force des grandes nations de football. La qualification au mondial a fait briller les Black Stars qui étaient en train de s'éteindre, s'il faut le dire ainsi, après une prestation démitante lors de la phase finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football. Le revoici dans une nouvelle dynamique pendant ces éliminatoires qualificatifs à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Quoique n'ayant pas réussi à aligner 2 victoires de suite pour se contraindre au nul d'un but par la République centrafricaine en match de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023, c'est une sélection des Black Stars qui confirme son statut dans ce groupe et avec 4 points, comme vous l'avez dit Élisée, il faudra s'affirmer davantage au fil des matchs, notamment au mois de septembre prochain lors de la troisième et quatrième journée face à l'Angola qui compte également 4 points. Ces deux oppositions seront des véritables tests de grandeur nature puisque ça sera 2 matchs avec enjeu au classement, les 2 derniers avant d'affronter la phase finale de la Coupe du Monde au Qatar.
Belle performance en revanche pour les Centrafricains qui ont joué le match à Luanda. Le sélectionneur Raoul Savoy.
Très fier de mon équipe, très fier de la discipline que les Fauves ont mis devant les Black Stars du Ghana. Une équipe mondialiste, c'est vraiment une satisfaction. Voilà, donc résultat logique et mérité pour les Fauves qui ont vraiment donné tout ce qu'ils avaient dans leur cœur. Avec beaucoup, beaucoup de discipline, et ça, c'est vraiment rassurant.
L'Angola, après son nul 1-1 à Madagascar, compte aussi 4 points et partage la première place du groupe avec le Ghana. Difficile en revanche pour les Baréa. Jules, les Malgaches ne sont toujours pas guéris. 1 point pris sur 6.
En fait, Élisée, il faudrait peut-être d'abord faire une analyse profonde de ce qui a fait la force de l'équipe malgache lors de son parcours héroïque de la phase finale égyptienne de 2019, pour comprendre pourquoi les conditions de l'époque ayant disparu, pour les Baréas, le retour sur terre est difficile. On se souvient qu'en 2019, tous les clignotants étaient au vert. L'enthousiasme provoqué par l'arrivée à la tête de la CAF d'un compatriote, Ahmad Ahmad, mais aussi la présence active auprès de l'équipe nationale d'un chef de l'État attentionné, alors que le soutien populaire était sans faille. Tout ceci a dopé sur le terrain une équipe nationale peu habituée à se retrouver à pareille fête. Mais voilà, le ressort s'est cassé. Le commando solidaire au mental d'acier a laissé la place lors du premier match contre le Ghana à une formation pénalisée par l'étirement des lignes, des oublis défensifs intolérables et un manque évident de solidarité, alors que tout autour, les tam-tams se sont tus, confirmant qu'il est plus facile d'arriver au sommet que de s'y maintenir. Le nul arraché face à l'Angola en seconde rencontre peut constituer un signe de reprise, à condition de retrouver les fondamentaux de l'équipe et espérer revivre les heures de gloire.
Justement, le sélectionneur Nicolas Dupuis reste positif.
Je tiens à vraiment remercier l'ensemble du staff et aussi les joueurs parce qu'ils se sont battus, il y a eu la cohérence, il fallait prendre un point à louper sur nos deux matchs. Ça n'a pas été facile, notre groupement. Parfois, il y a eu des plans de bataille un peu. Mais on s'est battu, on a fait une bonne table. On a un manque de concentration. Et ça, c'est le fruit, malheureusement, d'un manque d'expérience internationale. À 43 minutes, on ne va pas prendre le but pète. On a souffert en deuxième mi-temps. Mais pourquoi est-ce qu'on souffre? Parce qu'on est inquiet, parce qu'on n'est pas serein, parce qu'il nous manque des patrons derrière.
Dans le groupe J, la Tunisie se contente de 0-0 au Botswana après son carton contre la Guinée équatoriale. Amine, les aigles de Carthage étaient privés de quelques cadres comme Kazri ou encore Msakni.
Il faut tout de même dire que la Tunisie a pris 4 points sur 6 possibles. C'est donc une qualification en bonne voie pour la prochaine CAN. Victoire en milieu de semaine contre la Guinée équatoriale, qui a été quart de finaliste de la dernière Coupe d'Afrique. Et puis un bon match en déplacement au Botswana, sans plusieurs cadres laissés volontairement au repos ou indisponibles pour cause de blessure. Maintenant, l'équipe entraînée par Jalal Qadri va devoir réviser un peu ses gammes, dans la mesure où elle va s'envoler pour le Japon afin de disputer la Karim Cup. Ce sera l'occasion de tester quelques formules de jeu, quelques schémas, vérifier si certains joueurs sont capables d'être compétitifs au plus haut niveau pour être prêts afin de peut-être créer une petite surprise lors de la prochaine Coupe du Monde dans un groupe très compliqué avec notamment la France et le Danemark.
Le groupe L n'est qu'à sa première journée et entrée réussie pour le champion en titre, le Sénégal, vainqueur 3-1 du Bénin grâce à un triplé de Sadio Mané, devenu meilleur buteur de l'histoire des Lions. Satisfait, le sélectionneur Aliou Cissé ne retient que la victoire.
C'est toujours important de rentrer dans une phase éliminatoire avec une victoire. C'est très important pour le moral, c'est très important pour la confiance aussi, et puis ça donne un sens aussi à notre travail. Donc ce fut effectivement un match difficile dans la préparation, j'ai eu à le dire dans la semaine, c'est les matchs de fin de saison, les joueurs arrivent fatigués, on peut être que satisfait de ces 3 points.
Mercredi, les Sénégalais joueront le Rwanda pour tenter de prendre le large au classement. Ahmedine Sy, c'est un début parfait.
Tout à fait, Élisée, les champions d'Afrique en titre ont démarré ces éliminatoires de la CAN 2023 de la plus belle des manières en dominant le Bénin grâce à un triplé de Sadio Mané qui est devenu d'ailleurs le meilleur buteur de l'histoire des Lions avec 32 réalisation. Les Lions ont en effet attaqué cette rencontre pied au plancher en ouvrant le score à la 10e minute sur un penalty transformé par Sadio Mané. Poussé par un public acquis à leur cause, les points d'Aliou Cissé ont doublé la mise à la 25e minute par l'intermédiaire de Sadio Mané. L'attaquant de Liverpool s'est appuyé sur Boulaïdja, mais sa première tentative a été repoussée par le portier béninois. En bon renard des surfaces, il continue l'action et loge le cuir sous la barre transversale. Avec ce doublé, Sadio Mané venait d'égaler le record de Henri Camara qui était de 31 buts. Un record qui sera d'ailleurs battu par l'enfant de Bambali qui a inscrit un troisième but marqué à la 59e minute sur un penalty. Les Béninois vont réduire le score à la 87e minute grâce à Jean. Mais au finish, le Sénégal s'impose par 3-1 et s'empare de la première place du groupe L Élysée.
Le Bénin, véritablement dépassé par l'enjeu, et pour son sélectionneur Moussa Latondji, il est souvent difficile de jouer le champion en titre.
On a essayé de mettre notre système en place et qui n'a pas marché. Quand on joue contre des équipes vraiment au top niveau ou bien des joueurs de classe mondiale, il y a des fautes qu'on ne fait pas, donc on n'était pas présent dans le match. Maintenant, c'est de motiver les joueurs pour le prochain match, parce que c'est pas fini, c'est le début. On ne va pas s'arrêter comme ça, et donc le prochain match, c'est à gagner à la maison.
Lawal, c'est un match à vite oublier et se concentrer sur le Mozambique mercredi.
Oui, Élisée, il est important de rappeler que les Béninois avaient été largement en deçà de ce qu'on espérait d'eux au regard de leur prestation à la CAN et leur élimination en quart de finale face à ce même Sénégal. On a compris que les joueurs n'étaient peut-être pas dans leur match, les défenseurs étaient carrément comme en promenade de santé, le milieu ne fonctionnait pas comme il se devait, et puis les gens sautaient les lits.
On a compris que les Béninois n'étaient pas vraiment prêts pour ce match-là.
Mais c'était risqué aussi d'ouvrir le jeu, surtout que le match se jouait au Sénégal.
Ouvrir le jeu était la meilleure chose à faire pour les Béninois, parce que les Sénégalais n'avaient pas produit le jeu qu'on leur connaissait. Ils avaient profité juste de quelques opportunités. Ils ont rapidement scoré. Les Béninois ont été cueillis à froid pratiquement. Donc ils n'ont pas su remonter la tête pour tenir tête aux Sénégalais. Maintenant, aujourd'hui, le capital confiance doit véritablement être l'atout majeur afin que la suite soit mieux préparée, Élisée.
Merci Lawa. L'Algérie et l'Égypte ont aussi réussi leur entrée. 2-0 pour les Funèk face au Crâne d'Ouganda et 1-0 en faveur des Pharaons opposés au Sili de la Guinée. Amine, les deux sélections se sont relevées de leur non-qualification pour le Mondial au Qatar.
Deux victoires à l'arraché pour l'Algérie et l'Égypte. Une victoire ou un succès algérien remporté au stade du 5 juillet 2-0 contre l'Ouganda lors d'une semaine pimentée de polémiques à propos de l'absence de Riyad Mahrez. Les hommes de Belmadi ont dû se remettre ou s'en remettre à des exploits individuels de Issam Hamdi et notamment de Belaïli et un arrêt sur pénalty du nouveau gardien Zerba pour prendre les trois points de la victoire. Mais ce n'est pas l'Algérie de 2019, ce n'est pas aussi l'Algérie de 2020 avec un football pétillant. Quant à l'Égypte, elle est retombée dans ses travers. Elle n'a pas su dominer ou dompter une équipe du CNI national qui a vendu très chèrement sa peau au Caire. Et si ce n'était un but de Mustapha Mohamed à la 87e minute, ce n'est pas certain que l'équipe des Pharaons puisse l'emporter aujourd'hui. C'est un succès important dans la reconstruction de ces deux équipes qui ont besoin de reprendre de la confiance avant d'entamer leur deuxième sortie internationale post-CAN. Ce sera pour ces deux pays en déplacement et ce seront des déplacements très périlleux.
Non qualifié aussi pour ce mondial. La RDC en revanche peine toujours, battue 1-0 à domicile par le Gabon, alors que les Panthers, qui avaient connu un problème de vol, ont rallié difficilement Kinshasa avec seulement 14 joueurs. Valdo, un fiasco monumental pour les Léopards qui doivent vite se reprendre.
Non seulement que c'est un début raté, Élisée, l'issue de cette opposition comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2023 entre la RDC et le Gabon a tourné à une humiliation côté Léopard. Les circonstances qui ont prévalu avant ces face-à-face côté gabonais n'ont nullement affecté les Panthers qui ont d'ailleurs été techniquement et tactiquement supérieurs à la RDC. Avec un bloc bas, ils ont été réalistes devant le but congolais. Les Léopards, eux, n'ont pas été inspirés devant la cage adverse. Malgré la présence de Ben Malango, Mouleka ou encore Bolingui Pangui, ils se sont inclinés 1-0 à l'entame des éliminatoires de la CAN 2023. Une défaite qui n'est pas du tout digeste, surtout pas après la lourde défaite contre le Maroc aux éliminatoires du Mondial 2022. Cette défaite de la RDC est la deuxième consécutive contre le Gabon qui, au fil des matchs, gagne en confiance lorsqu'il faut jouer la RDC, puisqu'il compte désormais deux victoires contre un nul en trois matchs.
Merci Amine. Et puis dans le groupe B, le Burkina Faso a eu raison du Cap Vert 2-0 et le Mali facile vainqueur 4-0 du Congo dans la poule G. Amédine, début idéal pour les étalons et les aigles.
Ah oui, Élisée, les aigles ont d'ailleurs démarré ce match en fanfare en cueillant à froid les Diables Rouges à la 38e seconde, un but signé par Mohamed Camara. Les Maliens qui ont dominé cette rencontre de la tête et des épaules vont corser l'addition grâce à un doublé de Bilal Touré. Khalifa Koulibaly va clôturer le festival des Maliens en inscrivant un 4e but. Avec 4 buts d'avance, les Maliens ont pu gérer tranquillement la seconde période pour s'emparer de la première place. Bonne opération aussi pour les étalons du Burkina qui ont dominé les requins bleus du Cap Vert par 2-0. Avec cette victoire, les Burkinabés prennent ainsi la tête du groupe B avec 3 points, soit 2 de plus que le Togo et l'Estonie qui se sont neutralisés un peu plus tôt sur le score de 2 buts partout. Élisée.
A noter que le groupe A entame sa première journée le jeudi après que le Sao Tomé Principe soit réintégré par la CAF. Ainsi, les Santoméens jouent la Guinée-Bissau pendant que le Nigeria sera face à la Sierra Leone. Lawal, les Super Eagles retrouvent une fois encore les Sierra Leonais.
Oui, Élysée, aujourd'hui, c'est comme du bis repetita. Les deux équipes se rencontrent souvent à la dernière phase d'éliminatoire. Les deux ont pu se qualifier pour la phase finale. On espère que cette fois-ci, ça va marcher également pour les Sierra Leonais qui ont coiffé au poteau les Béninois. On s'en souvient. Mais le plus important pour les uns et les autres, c'est de confirmer les exploits qu'on a eus pendant la dernière CAN.
Est-ce que le Nigeria est guéri de sa non-qualification pour le mondial? Attention.
Non, quoi qu'on dise, le Nigeria, c'est un grand d'Afrique. Et quand le Nigeria est blessé dans différentes compétitions, le Nigeria se relance souvent.
Mais la Sierra Leone aussi a montré qu'elle sait jouer les grands.
Évidemment, ça va être un match assez enlevé d'un côté comme de l'autre, mais le plus important, on espère qu'on aura droit à du beau football. C'est tout ce que veulent les supporters et autres amateurs du foot africain.
Voilà qui est clair. Puis, confronté à la disqualification du Kenya, le Cameroun a un seul match au programme durant ses éliminatoires. Jules, les Lions indomptables affronteront jeudi le Burundi dans le groupe C.
Certainement, Élysée. Avec la disqualification du Kenya par la CAF, l'horizon du Cameroun s'éclaircit nettement dans sa poule éliminatoire pour le rendez-vous ivoirien. Ceci va certainement pousser le staff technique des Lions à profiter pleinement de ces matchs de qualification pour sélectionner le meilleur groupe possible capable d'affronter l'échéance capitale de la Coupe du Monde au Qatar dans 5 mois à peine. Le Cameroun, qui y retrouve dans une poule très relevée, les formations des Pays-Bas, de la Serbie et de la Suisse, ne veut pas reproduire le même raté qu'au Brésil en 2014, où il avait été balayé par le pays hôte, la Croatie et le Mexique. Il s'agit donc pour les Camerounais, actuellement avares en qualité et en solution de rechange, de ratisser le plus large possible, à l'intérieur comme dans la diaspora, afin d'aligner au finish le commando idéal, enrichir son banc et multiplier ses possibilités en cas de besoin. Mais avant tout ceci, il importe pour le quintuple champion d'Afrique de rassurer tout son monde dès ce jeudi en rappelant à l'ordre le Burundi, une nation en progrès, puisque présente au rendez-vous continental en Égypte il y a 3 ans seulement, au détriment du Gabon. Rigobert Song, qui connaît bien la maison, sait que le principal adversaire du Cameroun, c'est le Cameroun lui-même, capable de se transcender face à l'adversité, mais aussi amateur des trous d'air quand on s'y attend le moins. L'ancien capitaine Courage trouvera certainement des recettes pour maintenir le cap.
Le groupe K est aussi réduit à 3 après le retrait du Zimbabwe. Et Amine, le Maroc débute par l'Afrique du Sud jeudi après avoir disputé un match amical face aux États-Unis.
Les débuts qui seront très compliqués face aux Bafana Bafana d'Afrique du Sud qui ne réussissent pas généralement l'équipe du Maroc de football. Les statistiques le prouvent puisque le Maroc n'a réussi à gagner qu'une seule des 6 confrontations face aux Sud-Africains. Le contexte également du match, un contexte assez houleux après la défaite en amical face aux États-Unis sur le score de 3-0 à Cincinnati, un match où l'équipe du Maroc a montré de très nombreuses lacunes, ce qui a remis sur le tapis la situation du coach Raïd Halilhodžić, très contesté. Il va falloir véritablement que les joueurs puissent jeudi tourner la page de ce match amical désastreux et surtout se focaliser sur la rencontre en faisant abstraction du contexte assez épineux, notamment via les réseaux sociaux. L'équipe du Maroc a la possibilité donc de se relancer via cette rencontre qualificative et surtout de prendre une option sur la qualification pour la prochaine CAN, étant donné que le Maroc se retrouve dans un groupe à 3 avec uniquement l'Afrique du Sud et le Libéria.
Le lundi prochain, les Marocains iront au Libéria pour le second match de poule. Une saison réussie pour le football marocain qui a presque tout gagné sur le continent. Les interclubs de la CAF et la qualification pour le mondial qatari en novembre prochain. Amine, outre la qualification pour la Coupe du Monde qui a caché l'échec de la CAN au Cameroun, le Wydad et la renaissance du Berkane ont montré ce qui se fait de mieux sur le plan local.
C'est la saison parfaite. Si on doit ajouter également la qualification des cadettes marocaines U17 pour la prochaine Coupe du Monde, après avoir retourner la situation face aux Ghanéennes. Si l'on prend en compte la qualification des Lions de l'Atlas pour la Coupe du Monde, les deux titres africains de Wydad de Casablanca et de la Renaissance sportive de Berkane, on peut parler d'une année 2022 idyllique pour un football marocain qui renaît petit à petit de ses cendres. Il faut juste rappeler le contexte de l'arrivée de l'actuel bureau fédéral en 2014. Le Maroc est éliminé de la Coupe du Monde. Les clubs n'arrivaient plus à franchir la phase préliminaire des compétitions continentales. Il y a eu un travail. Il y a également un travail de prospection, détection, formation. Il y a aujourd'hui un des meilleurs centres de préparation au monde, qui est le complexe Mohamed VI. Et on voit les premières semences fleurir, notamment dans les catégories de jeunes. Le Maroc se veut pionnier en Afrique dans le ballon rond. Le Maroc veut être la locomotive du football africain au niveau des infrastructures, mais également des talents et des résultats. Et aujourd'hui, cette année 2022 est une petite consécration en attendant peut-être la qualification ou la possible qualification de l'équipe nationale féminine pour la prochaine Coupe du Monde. Ça passera par une organisation de la compétition au mois de juillet prochain et par une présence dans le carré de cette compétition, dans le dernier carré de cette compétition, ce qui est la condition sine qua non pour être présente en Nouvelle-Zélande et en Australie.
Le WAC, qui a succédé donc au palmarès à Al Ahly du Caire, double tenant du titre. Le mérite est revenu au coach Walid Regragui, qui signe une saison parfaite. Toujours en quête d'un triplé historique.
Je suis très heureux de ramener la troisième Champions League avec cette équipe. Oh, Wydad, il le mérite.
Mais on n'a rien fait, on a fait le premier trophée de l'objectif. Il nous reste le championnat, il nous reste la Coupe du Trône. On en a encore envie, il nous reste un mois. On va se battre pour essayer de faire le triplé historique, même si ça ne va pas être facile.
On revient vers vous, Jules. C'est le fruit d'un travail réalisé par un pays qui a mis assez de moyens pour la réorganisation de son football.
Les statistiques sont claires, Élisée, et les statistiques ne mentent pas. Le Maroc réalise une excellente saison cette année en gagnant les deux trophées interclubs dans la foulée du championnat d'Afrique des Nations qu'il détient depuis un an et demi. Des preuves s'il le fallait que le football continental en interne est actuellement dominé par le royaume chérifien. Ceci est le résultat d'une révolution discrète. En effet, depuis deux décennies, et cet échec relatif en finale de la CAN tunisienne de 2004, ce grand pays de football, pour avoir été champion d'Afrique en 1976, régulièrement brillant en compétition de clubs et représentant valeureux du continent en Coupe du Monde, comme celle de 1986, a décidé de placer la barre plus haut en s'investissant pleinement dans l'industrie du football avec la création d'un environnement moderne adapté, des infrastructures, une organisation et un encadrement de qualité, la puissance financière ainsi que la formation qui en font une antichambre parfaite pour le principal foyer de football mondial qu'est devenu l'Europe. Du coup, en externe, hors du continent, les retombées sont devenues palpables pour le Maroc avec des joueurs de qualité qui renforcent de plus en plus les clubs d'élite dans les grands championnats européens en Angleterre, en Espagne, en Allemagne ou en France. Il ne manque plus au Maroc qu'une Coupe des Nations récente et un quart de finale de Coupe du Monde, des objectifs somme toute devenus accessibles pour que ce pays reprenne le leadership du ballon rond en Afrique.
Voilà, on peut citer aussi le foot féminin parmi ce vaste chantier lancé par le royaume chérifien. Alors Valdo, le plus gros travail reste au niveau de la sélection dirigée par Vahid Halilhodžić qui n'a plus gagné une CAN depuis 1976.
Élisée, cela reste le plus grand défi des Lions de l'Atlas sur la scène continentale depuis leur premier succès en 76, gagné un titre en sélection nationale. La talentueuse génération des 88 est passée à côté de sa CAN, celle de 2004. S'est inclinée en finale, battue par la Tunisie. Sur le continent, il n'arrive pas à jouer le premier rôle depuis, se contentant de temps en temps de faire partie des mondialistes comme c'est le cas actuellement. Le succès des WAC en Ligue des Champions et Berkane en Coupe de la Confédération prouve à suffisance que le football marocain se porte bien dans l'ensemble. Cette bonne santé doit maintenant avoir une incidence en sélection nationale lors de la CAN 2023. Ils le méritent bien, mais ils doivent le gagner. Vahid le sait bien, sachant qu'il n'a pas totale confiance, plutôt attendu à la fois au mondial et surtout à la CAN 2023, pourvu qu'il demeure encore sur ses fauteuils des sélectionneurs des Lions de l'Atlas.
Merci Valdo. C'est la fin de Sporama, mais vous pouvez suivre toutes les infos relatives aux éliminatoires de la CAF 2023 sur notre page Facebook ou encore sur notre site internet voafrique.com 24h/24. Merci de rester connecté. Au revoir.